C'est l'heure du journal, Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Du repos dans une maison sous surveillance en attendant son procès, la nouvelle vie de Carlos Ghosn après 107 jours de prison au Japon. Nous sommes à Tokyo dès le début du journal. Les gardiens de prison en colère après l'agression d'hier à Alençon, accès bloqué une partie de la journée devant plusieurs établissements, sans doute aussi demain. La violence était la même il y a un an à Vendin-le-Vieil, nous y serons. Au sommaire également ce soir, fini le changement d'heure. Les Français votent pour leur DT. Les noms sur la liste des Républicains pour les Européennes et dans l'ordre, en prime. Le documentaire sur Michael Jackson qui fait beaucoup de vagues aux États-Unis. Le Paris Saint-Germain à un pas des quarts de finale de la Ligue des Champions. Et au téléphone sonne, Pierre.
Un chiffre qui nous interpelle, seulement 15% de femmes dans les métiers du numérique, un chiffre en baisse constante. Pourquoi si peu d'ingénieurs informatiques? Alors que l'Académie française a donné son feu vert à la féminisation des noms de métiers, est-ce suffisant pour faire évoluer les mentalités? Apparemment non. Le standard 01 45 24 7000.
C'est l'image du jour et elle contraste avec celle de grand Manitou de l'industrie automobile qu'il était il y a encore 107 jours. Carlos Ghosn, comme en bleu de travail, casquette sur la tête, masque blanc sur le visage, qui quitte la prison de Tokyo sous les flashs des journalistes. L'ancien PDG de Renault a donc payé près de 8 millions d'euros en liquide pour sortir de cellule. Direction la maison louée dans la capitale nippone, où sa liberté conditionnelle est très stricte. À Tokyo, pour Inter, Karine Nishimura.
Carlos Ghosn a besoin de se reposer, pas de conférence de presse ce jour, a dit son avocat. Mais il est certain que l'ex-mania de l'automobile ne laissera pas passer longtemps avant de clamer haut et fort son innocence. Il est parti de prison, vêtu d'une tenue qui rappelle celle des éboueurs du Japon. Et même si son épouse Carole et l'une de ses filles sont à Tokyo et qu'une maison a été louée pour les héberger, il n'est pas sûr du tout que le patron déchu se satisfasse des règles strictes qui lui sont imposées dans cette phase de semi-liberté. L'ex-citoyen du monde, habitué à sillonner la planète, est en effet assigné à résidence au Japon avec des moyens très limités de communication avec l'extérieur, pas d'ordinateur personnel et un smartphone privé d'Internet. C'est sous ce régime qu'il va devoir préparer pendant plusieurs mois son procès dont la date n'est pas fixée. Il va devoir affronter une équipe d'enquêteurs d'élite humiliés par sa libération et qui ne feront preuve d'aucune mansuétude à l'égard d'un personnage qui leur a déjà autant tenu tête. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Oui, Carlos Ghosn va rester dans ce logement à Tokyo jusqu'à son procès. L'autre dossier ce soir, c'est le mouvement de colère des gardiens de prison en France après l'agression d'hier à Condé-sur-Sarthe, un détenu et sa compagne qui blessent deux surveillants au couteau, jusqu'à l'intervention du raid dans la soirée où la femme a été abattue. Sa famille a été entendue par les enquêteurs aujourd'hui. Jusqu'à 18 établissements bloqués ce jeudi, plus aucun ce soir, mais d'autres appels sont lancés pour demain matin. À Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, l'agression un surveillant il y a un peu plus d'un an avait donné lieu à 3 semaines de protestation. Voici le reportage sur place de Winnie Claret.
Un coup de massue, voilà comment les agents pénitentiaires de Vendin-le-Vieil ont reçu la nouvelle de l'agression de leur collègue normand de Condé-sur-Sarthe mardi, Kader Ouarak, délégué CGT à Vendin.
Tout est remonté à la surface, tous les vieux souvenirs, les mauvais souvenirs. Donc à Vendin, les agents ont décidé de faire un mouvement, les actions à mener là, ces jours-ci.
Blocage et service minimum dans l'espoir que le gouvernement les entende. Une urgence pour les agents, pallier le sous-effectif dans les prisons, notamment sur un site ultra sécurisé comme Vendin ou deux quartiers d'évaluation. L'évaluation de la radicalisation ont ouvert en moins d'un an et qu'un troisième devrait bientôt être créé.
On nous a dit qu'on travaillait en sécurité à 2 parcoursives. En fait, on est tout seul. On demande à ce que les mouvements soient cadrés, ils sont toujours pas cadrés. Quand on ramène quelqu'un à l'infirmerie ou quand on les ramène au niveau du socio-éducatif.
Il y a entre 10 et 20 détenus radicalisés dans les deux quarts de Vendin pour une douzaine de surveillants. Wilfried Zala est secrétaire local FO pénitentiaire.
Il nous faut des effectifs vraiment pour combler les organigrammes. On a du mal à recruter, enfin il faut vraiment tout remettre à plat.
Les syndicats prévoient de continuer les blocages jusqu'à ce que la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, accepte de négocier un nouvel accord sur les conditions de sécurité, les statuts et sur les salaires pour rendre le métier plus attractif, alors qu'il y aurait 150 postes de surveillants vacants dans les Hauts-de-France.
Reportage signé Winnie Claret de France Bleu Nord. Et donc, d'autres appels au blocage sont lancés pour demain jeudi. Autre mouvement, celui des Gilets jaunes, qui se fait entendre jusqu'aux Nations Unies par la voix de Michelle Bachelet, haut-commissaire aux droits de l'homme. Elle fait référence aux violences policières en marge des différentes manifestations depuis le 17 novembre. Et elle demande à la France, en urgence, une enquête approfondie sur ce qu'elle nomme l'usage excessif de la force. Paris suivra sa recommandation, répond Benjamin Griveaux. Mais le porte-parole du gouvernement rappelle aussi que 162 enquêtes ont déjà été ouvertes depuis presque 4 mois. La loi anti-casseur devrait être définitivement adoptée la semaine prochaine à l'Assemblée. Les sénateurs n'ont pas modifié le texte aujourd'hui en commission en deuxième lecture. Autre texte qui arrive aujourd'hui en commission au Sénat, la loi d'orientation sur les mobilités dont les Gilets jaunes démontrent l'utilité d'après la ministre Elisabeth Borne. Ils veulent sortir d'une France à deux vitesses, les TGV entre grandes villes d'un côté, les routes et voies ferrées dégradées de l'autre. Bonsoir Maxime Depp.
Bonsoir.
La loi a d'ailleurs été modifiée pour répondre à ce sentiment d'injustice.
Oui, ont disparu ce qui était prévu au départ, les péages urbains, hein, la possibilité pour les villes de faire payer les automobilistes à chaque entrée, trop polémique, surtout dans le contexte actuel. Le gouvernement a donc changé de braquet. Le texte aujourd'hui au Sénat prévoit notamment la création d'un forfait mobilité durable jusqu'à 400 euros qui pourront être remboursés aux salariés s'il choisit de venir au travail en vélo ou en covoiturage. Le covoiturage que le gouvernement veut voir se développer dans les déserts de mobilité. Des outils seront mis dans les mains des collectivités pour qu'elles l'encouragent. Pour autant, au ministère, on sait que la voiture individuelle restera pour certains le seul moyen. Des mesures, pourquoi pas, pourraient être intégrées à cette LOM pour faire baisser le coût du permis de conduire. Et comme l'a laissé entendre Édouard Philippe hier également, des dispositions seront mises en place pour permettre aux automobilistes du quotidien de changer plus facilement les pièces détachées de leur voiture lorsqu'il le faut et surtout pour moins cher.
Maxime Debs, c'est un peu David contre Goliath. La France, seule en Europe face aux GAFA. Le gouvernement lance sa taxe nationale sur les géants du numérique. Bruno Le Maire a présenté son projet de loi ce matin en Conseil des ministres. Le texte prévoit une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires numérique réalisé en France par les très grandes entreprises du secteur, Google, Amazon, Facebook et autres Apple, qui réalisent 750 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial, plus de 25 millions dans l'Hexagone. L'impôt sera effectif à partir du 1er janvier de cette année et devrait rapporter 400 millions d'euros en 2019, d'après le patron de Bercy.
19h07, Sébastien, les Français ne veulent plus du changement d'heure.
La consultation lancée par l'Assemblée a reçu plus de 2 millions de réponses. Plus de 80% des votants veulent la fin du changement d'heure deux fois par an. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
Et la majorité opte pour l'heure d'été.
Oui, c'est une victoire assez nette. 59% des personnes qui ont répondu veulent rester à l'heure d'été toute l'année. Sans doute un attachement assez long. Soirée d'été, vous savez, ces barbecues sur la terrasse avec un soleil qui se couche quasiment à 22h30 en Bretagne fin juin. Alors si on applique cette heure d'été toute l'année, le soleil se lèvera et se couchera une heure plus tard. Exemple, un coucher à 18h30 à Biarritz fin décembre ou un lever du soleil à 10h du matin à Quimper. En tout cas, le sujet passionne. 2 100 000 personnes ont répondu à cette enquête en ligne. C'est un record pour l'Assemblée nationale. Alors quand va-t-on arrêter avec le changement d'heure? Pas tout de suite. Il faut d'abord se mettre d'accord avec les voisins européens. Sabine Tillet, la députée En Marche qui a lancé la consultation, va transmettre ses résultats à Bruxelles.
À l'heure actuelle, 73% de la population européenne est actuellement à la même heure. Si on a trop de disparités, ben là, ça nous poserait quand même des problèmes au niveau du transport aérien, par exemple. Ça posera aussi des problèmes pour nos transfrontaliers. On a 360 000 personnes qui travaillent, par exemple, en Allemagne. Donc, on doit tenir compte de ça.
Les négociations entre pays européens doivent durer 2 ans. Et si la majorité d'entre eux est pour la fin du changement d'heure, c'est la synchronisation des horloges qui s'annonce beaucoup plus compliquée.
Un peu compliqué, en effet. Merci Rémi Brancato. Les Français choisissent l'heure d'été, c'est à retrouver sur franceinter.fr. Après la pétition L'Affaire du siècle, plusieurs ONG appellent à la marche du siècle. Ça fera peut-être plaisir à Jean-Marie Cavada. Greenpeace, la Ligue des droits de l'homme, le Secours catholique, tout organise une marche le 16 mars à Paris et dans plusieurs dizaines de villes du pays. Marche pour des changements immédiats dans la lutte contre le réchauffement climatique. La réponse de la CGT au pacte social et environnemental de Laurent Berger et Nicolas Hulot, la centrale de Philippe Martinez regrette la précipitation de certaines personnalités et prône une réponse unitaire. Le patron de la CFDT et l'ancien ministre de l'écologie font 66 propositions pour un Big Bang social et pour rendre indissociables les enjeux économiques et sociaux. À propos d'écologie, encore l'eurodéputé Pascal Durand, prêt à être candidat aux européennes sur la liste En Marche. L'ancien patron d'Europe Écologie Les Verts explique à l'Obs qu'il ne rejoint pas le parti présidentiel, mais qu'il veut utiliser sa liste comme levier pour défendre ses idées. On en parlera demain à 7h50 avec Stéphane Séjourné, le directeur de la campagne d'En Marche pour les européennes, qui est l'invité d'Alexandra Ben Saïd. Les européennes, on en parle aussi chez les Républicains. Ce soir, bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
On avait déjà la tête de liste, François-Xavier Bellamy. On a maintenant les 30 noms sur la liste et finalement, dans l'ordre.
Oui, un total changement de pied. Hier, Laurent Wauquiez annonçait à ses équipes que les 30 premiers noms seraient donnés dans l'ordre alphabétique pour que chacun prouve sa motivation. Mais cette décision a suscité la bronca des prétendants, mais aussi de certains ténors du parti. On parle de Bruno Retailleau ou de Gérard Larcher. La direction a donc fait volte-face et c'est une liste dans l'ordre que nous allons avoir ce soir. Et donc le nom des candidats en position éligible. Laurent Wauquiez qui réussirait a priori la synthèse en imposant les indétrônables Nadine Morano et Brice Hortefeux, mais faisant place aussi au renouvellement avec par exemple le sarkozyste Frédéric Pechenard et la porte-parole Laurence Saillé. À la sixième place, un poste réservé pour une élue centriste comme convenu avec Hervé Morin. La liste c'est donc quasi chose faite à l'heure où je vous parle. Place maintenant au projet qui devrait être dévoilé le 16 mars en Conseil national.
Élodie Forêt en direct du siège des Républicains à Paris avec Marcos Daras, merci à tous les deux. Et toujours à propos des LR, deux nouveaux départs. La maire de Morlaix, Agnès Lebrun, et l'ex-députée de Moselle, Marie-Jo Zimmermann. Elles quittent le parti de Laurent Wauquiez. Elles ne se reconnaissent plus, disent-elles, dans ses valeurs et son fonctionnement. En cause notamment les prises de position anti-avortement de François-Xavier Bellamy.
La France marche toujours sur des œufs à propos de l'Algérie.
C'est un pays souverain dont la stabilité est essentielle pour le patron du Quai d'Orsay, Jean-Yves Le Drian, qui ajoute face aux manifestations des derniers jours contre une cinquième candidature d'Abdelaziz Bouteflika, que c'est au peuple algérien et à lui seul de choisir ses dirigeants et son avenir. Chez le voisin tunisien, les élections présidentielles et législatives auront lieu les 6 octobre et 10 novembre prochains. Michael Jackson fait encore beaucoup parler de lui 10 ans après sa mort, ça fera 10 ans en juin, et un documentaire a été diffusé pour l'occasion le week-end dernier aux États-Unis. Documentaire qui accuse de nouveau le roi de la pop de pédophilie. Documentaire qui fait beaucoup de bruit, plusieurs radios retirent ces chansons de leur programmation au Québec et l'onde de choc est aussi énorme chez vous en Amérique, Grégory Phillips.
Everybody wanted to meet Michael or be with Michael.
Le documentaire Leaving Neverland a battu des records d'audience dimanche soir sur HBO et on a pu entendre longuement le témoignage de ces deux hommes qui accusent Jackson de les avoir agressés sexuellement alors qu'ils étaient mineurs dans son ranch de Californie. Depuis, c'est un flot ininterrompu de commentaires sur les réseaux sociaux. Les fans du chanteur, mort il y a bientôt 10 ans, ont créé un mot-clé sur Twitter, MJ Innocent, et sur la chaîne TMZ, Stevie Wonder prend la défense de celui qui fut le King of Pop. Il est mort maintenant. Espérons juste que son héritage, ce qui nous a laissé, sa musique, continue à inspirer beaucoup de gens. La musique de Michael Jackson continue de rapporter chaque année entre 20 et 25 millions de dollars à ses héritiers qui ont tenté de faire interdire la diffusion du documentaire de HBO. À Las Vegas, le Cirque du Soleil propose toujours un spectacle inspiré de son œuvre, mais à New York, sur Broadway... Un projet de comédie musicale baptisé « Don't Stop Till You Get Enough » est à l'arrêt et reporté pour l'instant à 2020. Le ranch Neverland, enfin, est à vendre, désormais pour 31 millions de dollars, prix cassé, environ un tiers de sa valeur. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Lui aussi ressurgit du passé, mais pour une raison qui ne fait pas du tout polémique, un document inédit d'Albert Einstein vient d'être dévoilé par l'Université hébraïque de Jérusalem, à qui il avait légué ses travaux. Une centaine de pages écrites à la main par le physicien, dont certaines Marine Vlaovic, sur la théorie du champ unifié qui n'avait jamais été vue.
Les feuilles sont un peu jaunies, d'une écriture très fine et en allemand, Albert Einstein se dévoile dans cette centaine de notes manuscrites, connues des chercheurs mais peu ou pas publiées. Il s'agit en grande partie de travaux de mathématiques qui ont une valeur inestimable pour Ronny Grotz, le directeur du fonds d'archives d'Albert Einstein à l'Université hébraïque de Jérusalem.
Une partie de ce papier, il s'agit vraiment des tests, des essais. Une autre partie, il s'agit des préparations pour des publications. Nous essayons de découvrir quelles pages ont un rapport l'une avec l'autre pour savoir en fait de quoi il s'agit. Parce que maintenant, c'est très dur de discerner où commence un document et où il se termine.
Parmi la masse de documents qu'il faut encore défricher, l'appendice d'un important papier scientifique où figure une page que l'on croyait perdue à tout jamais, mais également des lettres d'un ton plus personnel. Dans un courrier adressé à son fils en 1935, Albert Einstein qualifie Freud, le médecin de Vienne, de simple escroc, tout en s'inquiétant d'une guerre à venir en Europe. Jérusalem, Marine Vlaovic, RFI pour France Inter.
Presque 7 mois qu'elle est entrée en vigueur, Marlène Schiappa fait le premier bilan de la nouvelle loi contre les outrages sexistes. 332 amendes sur l'ensemble du pays. Le texte est appliqué et il est efficace pour la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes. 8 mois de prison ferme à Grenoble pour un homme de 25 ans qui participait aux violences contre les forces de l'ordre dans la nuit de lundi à mardi, toujours après la mort de 2 jeunes gens qui tentaient d'échapper à la police sur un scooter volé. Les obsèques de l'un d'eux ont eu lieu cet après-midi, suivies d'une marche blanche en sa mémoire. 2000 personnes y participaient. Le PSG va-t-il retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions? On aura la réponse ce soir. Après le 8e de finale retour contre Manchester United, les Parisiens ont les statistiques pour eux après leur victoire 2-0 à l'aller en Angleterre, mais les supporters ont aussi un autre mot en tête. Bonsoir Cédric Guillou.
Bonsoir Sébastien.
Ce mot c'est comeback.
Oui, comeback ou remontada, comme vous voulez. C'est vrai que les supporters parisiens sont relativement confiants parce que vous le disiez, les statistiques sont en faveur des Parisiens. Dans l'histoire de la Ligue des Champions, il y a eu 15 équipes qui ont gagné 2-0 leur match aller à l'extérieur. Eh bien, les 15 sont passés au match retour, mais forcément, il y a certains supporters parisiens qui se rappellent de ce qui s'était passé en février 2017 avec ce fameux match face à Barcelone. C'est le cas de Vincent. Bonsoir. Vous êtes supporter du Paris Saint-Germain depuis 1994 et vous me disiez il y a quelques minutes, depuis 18h, j'ai un petit stress qui commence à monter quand même.
Ouais, j'ai un petit stress qui monte exactement et je n'ose croire à une défaite ce soir. J'ai envie d'être serein, j'ai envie de voir 11 guerriers, même 14 guerriers, et continuer ce qu'ils ont fait au premier acte et se qualifier pour les quarts de finale.
Alors ce qui plaide en faveur des Parisiens, c'est l'équipe de Manchester extrêmement décimée. Ce soir, une dizaine d'absences, ça c'est plutôt positif et encourageant.
Oui, c'est-à-dire que c'est l'équipe B, l'équipe A' ce soir, avec deux attaquants quand même de grande qualité, Rashford et Lukaku. Mais après, au milieu de terrain, il y aura moins d'expérience. Normalement, le milieu de terrain de Paris doit vraiment prendre le dessus avec Verratti, Marquinhos. Et puis devant, conclure avec Di Maria et Mbappé.
Normalement, ça passe ?
Normalement, ça passe. Après, Paris est capable de tout. Le match au Camp Nou, le match contre la Corogne... Des renversements aussi positifs de l'autre côté contre le Real Madrid bien avant. Donc oui, ça va passer.
Bah, on espère que ça va passer. Merci beaucoup à Vincent, Sébastien. Voilà. De l'optimisme, mais un petit peu de prudence quand même.
Ouais, merci à vous, Cédric Guillou, en direct devant le Parc des Princes. Et donc, début de réponse pour ce match PSG-Manchester United à partir de 21h. On termine en musique avec quelqu'un qui aura passé sa vie à rapprocher le jazz et la musique classique. Le compositeur et pianiste Jacques Loussier est mort hier soir. Il était connu pour le trio Playback qu'il avait fondé en 1959 et qui adaptait en jazz les partitions de Jean-Sébastien Bach. On lui doit aussi des dizaines de morceaux pour le cinéma et la télévision, dont celui-ci. Pierre Veille remue la tête. C'est le générique de la série.
Ben, Thierry Lafronde, c'était le dimanche soir sur mon téléviseur noir et blanc.
Nous n'étions pas nés, mon cher Pierre, mais nous nous souvenons bien sûr de ce morceau signé Jacques Loussier, le générique de Thierry Lafronde. Jacques Loussier mort hier à 84 ans. 84 ans, ça me fait penser à un autre morceau, le thème de la folie des grandeurs de Michel Polnareff. Un peu enlevé comme ça avec de la trompette, vous réécouterez.
Absolument.
C'est très beau. Son domaine à lui, j'ai encore une information à vous donner. C'était la critique littéraire. On apprend ce soir la mort de Jean Starobinski, auteur de plusieurs livres devenus des classiques du genre sur Corneille, sur Stendhal, sur Baudelaire. Son essai le plus connu, c'est celui sur Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle. Ses étudiants l'appelaient Staro. Jean Starobinski avait 98 ans.
C'était le journal de Sébastien Paour. À demain soir, 19h, Sébastien.
La météo Avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Et voici Élodie Calac de Météo France. Élodie, le temps perturbé se décale vers l'est.
Exactement, la perturbation va progresser du sud-ouest vers l'est du pays avec des pluies marquées, parfois orageuses, beaucoup de vent. Ce soir et cette nuit, le vent peut atteindre 70 à 100 km à l'heure, 90 à 120 sur le sud de la Loire, du Rhône, parfois même 130 du côté de l'Isère. Alors ce temps s'étendra encore du nord-est à l'est du Rhône demain matin avec de la pluie, de la neige vers 1200 mètres et encore quelques rafales à 100 km à l'heure sur le relief.
Et ailleurs, on aura des averses.
Un ciel changeant se mettra en place en effet dès le matin avec pas mal de nuages, des averses, du vent. L'après-midi, on aura aussi de bons moments de soleil. C'est vraiment entre les Landes, le Pays Basque et le sud-est que le soleil se montrera le plus. Pour les températures, de la douceur avec 4 à 12 degrés le matin et puis l'après-midi, petite baisse mais encore 11 degrés à Lille, 12 à Paris, 13 à Besançon ou Angers, 16 du côté de Lyon, de Toulouse et 19 pour Nîmes.
Élodie Calac, merci.